Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, chers pères et frères, chers séminaristes, chers fidèles, donnons maintenant quelques mots d'explication sur la cérémonie auquel nous allons assister. Le sacerdoce est chose si grande, donnant à un simple homme mortel les pouvoirs de Jésus prêtre, que depuis le début de l'Église, ab initio ecclesiae, dit le Concile de Trente, on y accède par différents degrés, et chacun de ces degrés correspond à une fonction du prêtre à laquelle le futur lévite doit s'exercer avant d'être admis à la fonction supérieure. Aujourd'hui, nous allons assister aux toutes premières étapes de la montée vers le sacerdoce. Et d'abord, la cérémonie de la tonsure, qui est un rite sacré par lequel un laïc devient clerc. Le code de droit canon dit que la distinction entre clerc et laïc dans l'Église est d'institution divine. Les clercs sont ceux qui participent d'une manière plus ou moins grande au sacerdoce de notre Seigneur. Par la tonsure, le nouveau clerc ne reçoit encore aucun pouvoir spirituel, mais il est déjà destiné au culte divin et à la réception des ordres. Pour accomplir cette cérémonie, l'évêque coupe 5 mèches de cheveux en l'honneur des 5 plaies de notre Seigneur, en disant ce verset du psaume 15 que l'ordinant récite avec lui. Le Seigneur est la part de mon héritage et de mon calice, c'est vous, Seigneur, qui me rendrez mon héritage. Monsieur Ollier, fondateur du séminaire de Saint-Sulpice au XVIIe siècle, en application des décrets du Concile de Trente, écrivait « L'entrée dans la cléricature est une profession publique de renoncement au monde afin de prendre Dieu pour unique héritage. La cléricature est une profession publique de vouloir imiter Jésus-Christ en qualité d'hostie vouée et consacrée à Dieu. » C'est le premier pas vers le sacerdoce du Nouveau Testament où le prêtre est en même temps victime. C'est pour cette raison que Mgr Lefebvre demandait qu'on donne au nouveau clerc un crucifix pour qu'il n'oublie jamais qu'être prêtre, c'est monter sur la croix avec Jésus pour sauver les âmes. La croix est le livre par excellence du prêtre, disait Mgr Lefebvre. L'évêque remet ensuite le surplis en rappelant que la couleur blanche signifie l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi l'évêque nous aura invités à prier notre Seigneur, je cite, « qu'il défende le cœur de ces nouveaux clercs des embarras du monde et des désirs mondains, et comme ils seront changés extérieurement, que la puissance de Dieu les fortifie dans la vertu et les protège de tout aveuglement spirituel et humain et leur accorde la lumière de la grâce éternelle. » L'Église supplie donc notre Seigneur d'accorder à ses nouveaux clercs la grâce de la sainteté. Et elle veut leur épargner l'aveuglement de l'esprit dans lequel vivent tant d'hommes aujourd'hui qui ne sont attachés qu'aux biens matériels et sensibles. L'Église veut que ses clercs soient des hommes de Dieu et c'est cela dont a besoin notre monde. Après la tonsure vient l'ordre de portier. Il confère la charge d'ouvrir et de fermer l'église, d'en écarter les personnes indignes et de garder les vases et ornements sacrés, les reliques des saints, et surtout le plus grand trésor qui est renfermé dans nos églises, à savoir la Sainte Eucharistie au tabernacle. Le portier doit encore veiller à la beauté de l'église, à la propreté du sanctuaire et du chœur. Et puis, enflammé du zèle des âmes, il doit sonner les cloches pour appeler à la prière. On comprend donc que la vertu spéciale requise pour recevoir et exercer l'ordre de portier est le zèle de la maison de Dieu et des âmes. Ainsi, dit Monsieur Ollier, le portier participe déjà à la dignité de Jésus-Christ qui est la porte du paradis. Dans le rite d'ordination, pour symboliser la fonction du portier, l'évêque fait poser les mains de l'ordinant sur les clés de l'église en lui disant « agissez comme devant rendre compte à Dieu des choses qui sont renfermées sous ces clés. » Et puis le prêtre assistant conduit l'ordinant à l'une des portes de l'église pour la lui faire ouvrir et fermer, et il leur fait sonner une cloche. L'évêque dira: « Veillez à ce que rien de ce qui est dans l'église ne se détériore par votre négligence. Soyez attentifs à ouvrir aux heures réglées la maison de Dieu aux fidèles et à la tenir toujours fermée aux infidèles. Comme vous ouvrez et vous fermez l'église visible avec des clés matérielles, appliquez-vous aussi à fermer aux démons et à ouvrir à Dieu par vos paroles et par vos exemples les temples invisibles, c'est-à-dire les cœurs des fidèles, afin qu'ils conservent soigneusement les divines paroles et qu'ils les mettent en pratique. » Le lecteur, quant à lui, a pour fonction de lire ou de chanter en public les textes de l'Ancien Testament et leurs commentaires par les pères de l'Église, spécialement pendant l'office de matine. Et il reçoit une grâce particulière pour enseigner le catéchisme. Une fois ordonné, dit Mgr Lefebvre, le lecteur doit avoir conscience que quelque chose est changé en lui, qu'il a franchi une étape, que Dieu lui a donné une force de l'Esprit Saint, si bien qu'il a une foi plus vive. Cette nouvelle étape vers le sacerdoce est très importante. Qu'est-ce qu'il devra prêcher lorsqu'il sera prêtre, si ce n'est la Sainte Écriture commentée par la tradition? Le nouveau lecteur doit donc se faire un devoir de l'étudier, de la méditer, de la prier. Traitant saintement la parole de Dieu, la respectant et la révérant comme elle le mérite, dit saint Augustin, demandant qu'on porte le même respect aux moindres syllabes de l'Écriture qu'aux parcelles du Saint-Sacrement, car elles sont comme des enveloppes qui contiennent le Saint-Esprit. Dans le rite d'ordination du lecteur, l'évêque fait toucher à l'ordinant le livre contenant les lectures en lui promettant, s'il est fidèle à son office, d'avoir part à la récompense promise au premier ministre de l'Évangile. Le lecteur a aussi le pouvoir de bénir le pain et tous les fruits nouveaux. Pour conclure, le Concile de Trente, après avoir rappelé que ces cérémonies datent des débuts de l'Église, avait lancé un anathème contre ceux qui diraient qu'il n'y a pas d'ordre majeur et mineur par lesquels on s'avance jusqu'au sacerdoce. Mais au Concile Vatican II, c'est une nouvelle conception du sacerdoce qui est apparue. Un sacerdoce désacralisé et protestantisé. Sans tenir compte de l'anathème du Concile de Trente, le pape Paul VI a alors supprimé les ordres mineurs et le sous-diaconat qui est un ordre majeur. Pour accéder au sacerdoce, il ne reste plus dans l'Église conciliaire comme ordre que le diaconat, lui-même largement conféré à des laïcs, ce qui ouvre une porte à la possibilité d'ordination sacerdotale d'hommes mariés. Le pape François l'a évoqué pendant le synode sur l'Amazonie. Alors, remercions Mgr Lefebvre d'avoir sauvé le sacerdoce et d'avoir sacré des évêques pour que ces cérémonies puissent continuer et donner à l'Église les prêtres dont elle a besoin pour continuer l'œuvre de notre Seigneur. Et soyons reconnaissants à Mgr Faure de poursuivre l'œuvre de Mgr Lefebvre par ses ordinations. Prions donc pour Mgr Faure, pour les ordinants et pour les vocations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.